proxy jeu avec Dédé Schutz. Et oui, je suis Paul Gara. Et une fois n'est pas coutume, je suis en direct du Manoir Schutz.
Ah, le mois de juin. La chaleur monte, les meeples sortent leurs bikinis. Dans cette ambiance chaude et ensoleillée, alors que les festivals battent leur plein, que la bière coule à flot, alors que le monde a les yeux rivés sur la Coupe du Monde de foot, nos deux héros vous présentent les chroniques. Nous sommes en juin 2018 et c'est bien l'épisode 98 chronique de Proxy Jeux que vous écoutez. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Et c'est le dernier de la saison. Mais rassurez-vous, on reviendra. Et pour ce dernier de la saison, je suis encore une fois accompagné de Paul Gara. Salut Paul Gara.
Salut Dédé. Alors, est-ce que tu n'es pas trop impressionné cette fois-ci par notre deuxième rencontre à Paris ?
Non, écoute, ça va, j'étais heureux de te revoir, enfin en vrai.
Oui, et nous n'avons toujours pas joué ensemble, je pense que nous n'y arriverons jamais. Et la question cruciale de cet épisode, si les meeples sortent leurs bikinis, est-ce que les meeples portent des strings aussi ?
Ah, écoute, je vais aller vous ouvrir ma boîte de Rampage pour aller voir les meeples s'ils portent des bikinis et des strings.
Oui.
Parce qu'il y a quand même des piscines dans Rampage, donc on peut...
Voilà, mais est-ce que les meeples font du topless ? Ça, parce que souvent les meeples sont nus quand même dans les boîtes, donc ça ouvre beaucoup de questions. Bah,
c'est ça. Bah alors à Carcassonne, je pense pas, parce que Carcassonne, c'est la Carcassonne médiévale, donc je sais pas trop si c'était à la mode de faire du topless à l'époque.
Non, pas trop, je pense effectivement. Peut-être les mi-potes portaient des cordes de maille, mais on le voit pas.
Ah, peut-être.
Mais enfin, quand il fait 40 degrés, la cotte de maille, c'est moins bien que le bikini, je pense.
Oui, mais ça protège plus des coups d'épée.
Des coups de soleil. En fait, c'est ça.
Non, des coups d'épée.
Ah, des coups d'épée. Ou des coups de soleil aussi, d'ailleurs.
Bah oui, aussi, oui.
Et bien évidemment, on en profite pour remercier encore la boutique Philibert qui nous aide à réaliser ce podcast. Puisque Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui nous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et un grand merci à nos tipeurs qui soutiennent ce podcast. On leur souhaite d'excellentes vacances. Hein. Et un grand merci également à la famille Blu pour son don en nature et à Monsieur Chris pour son gros don PayPal. Et puis, on a une pensée pour James Franco, pour qui c'est toujours l'été, puisqu'il est loin de nous, à Los Angeles. Il vit en tongs et en short toute l'année, donc lui, il n'est pas impacté par ces changements de température soudains.
Ouais, on le remercie et on remercie les tipeurs qu'on a pu croiser à Paris et Ludique le week-end dernier.
Une spéciale dédicace à Néophytes, qui est venu nous voir et... qui n'est pas reparti les mains vides, car on est quand même sachés pour aussi jeu.
Et Quintala Kelly aussi.
Oui.
Je n'oserais pas écorcher son nom.
Il n'y a que moi qui ai le droit de le dire.
Voilà, elle me l'a dit, mais je pense que c'est au-dessus de mes facultés de le dire sans bafouiller.
Voilà, moi je suis déçue parce que je ne l'ai pas vu en vrai, alors que je m'étais mis le challenge de donner son nom complet. Donc j'ai hâte de la revoir pour qu'elle me dise là où je me suis complètement gaufrée la première fois.
Ok. Alors on va commencer tout de suite avec les commentaires.
Pas beaucoup de commentaires. Hein. J'ai l'impression que les auditeurs, ils étaient plus occupés à autre chose.
Ils sont déjà en vacances. on a quand même Twin, notre régulier.
Voilà, c'est notre client régulier.
Donc qui nous fait un retour sur un peu toutes les chroniques, donc qu'il apprécie encore une fois toutes nos chroniques.
Et en plus c'est bien parce qu'il nous donne des idées de débats pour la saison 9.
Voilà.
Puisque il propose qu'on revienne un peu sur les prix ludiques avec une vision un peu rétrospective, que sont devenus les jeux qu'on gagnait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc c'est une idée qu'on creuse avec Dédé et je pense que ça reviendra effectivement dans un prochain épisode.
Ouais, on va y travailler, mais ça demande un peu de recherche.
Un peu d'archéologie.
Voilà. Et on a un commentaire de Mathias aussi, qui a bien aimé l'émission et les analyses du pionfesseur.
Voilà, et qui m'a taquiné au passage sur le qu'est-ce que le gameplay. Donc, à qui j'ai répondu sur le site, et voilà, parce que le gameplay, bah, on sait ce que c'est, mais on aimerait bien savoir ce que c'est exactement. Donc, j'ai tout l'été pour potasser ce sujet.
Voilà, tu empruntes les livres à Cariat et tu...
Oui, voilà, c'est ça, une petite session de rattrapage. J'ai eu ça au bac philo et je me suis plantée, donc va falloir réviser pour septembre. Voilà.
On va passer à notre...
À la partie proximité de Proxyjeux.
Voilà, la partie proximité avec le prochain festival de cet été, le gros festival de le Bruxelles Game Festival.
Voilà.
Donc c'est le sixième édition.
Oui, et qui a lieu fin août, de mémoire, le dernier week-end d'août.
Voilà, le 24, 25 et 26 août 2018.
À Bruxelles, au parc du Cinquantenaire.
Le grand parc du Cinquantenaire.
Et on peut espérer que la bière sera bonne.
Ouais, bah la bière...
Sur place.
La bière est toujours bonne à Bruxelles Game Festival.
Voilà. Et...
C'est des Belges, ils savent faire de la bière, ouais, quand même.
Et puis, qui avait fait un Kickstarter, on en avait parlé dans un épisode interview, qui avait fait un Kickstarter pour agrandir le festival. Un festival qui est gratuit, d'ailleurs.
Ouais.
Et moi, voilà, moi j'y serai, donc j'espère que peut-être on s'y croisera dès cet été.
Ouais, peut-être si j'arrive à y aller. Et bah oui, le parc du Cinquantenaire, j'étais déjà à Bruxelles, c'est sympa, entre le musée de l'armée... qui est un peu musée de l'armée belge. Ils ont pas fait beaucoup de guerres, mais c'est toujours sympa à voir leurs appareils, leurs tanks et leurs avions. C'est marrant à visiter. Et ils ont aussi un autre musée sur cette même place du Cinquantenaire. Et ils ont dans ce musée un géant de l'île de Pâques. Je vous conseille donc d'aller voir le musée, je crois que c'est le musée de la couronne, le Royal Museum de Bruxelles, où ils ont un géant de l'île de Pâques, donc c'est assez impressionnant à voir en vrai.
Moi, écoute, je le note, hein, j'essaierai d'aller faire un tour aussi.
Voilà, si entre deux parties tu peux aller...
Ouais, le musée de l'armée, là sur le papier ça me dit moins, mais... Je sais pas pourquoi, mais...
Il y en a pour tous les goûts. Et sinon, bah, vous pourriez jouer au Bruxelles Game Festival. Je rappelle les dates, c'est du 24 au 26 août 2018.
Ouais.
Et on va enchaîner directement sur les chroniques. Alors, on ouvre toujours les chroniques avec les plateaux numériques.
Qu'est-ce qu'on va télécharger ce mois-ci? Alors, parce que moi, je me suis fait avoir par Fendowell sur le mois dernier, puisque j'ai téléchargé Pathfinder Adventure.
Ah.
Voilà, donc, je sens que... Quel est la prochaine... Le prochain craquage. Achat. Voilà, le prochain craquage sur tablette.
Ah bah écoute, on va écouter Cyrus qui nous parle de Quix tout de suite.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des plateaux numériques. Aujourd'hui, je vais vous parler du portage de Quix. Quix est un jeu de Stefan Bendorf, édité à l'origine par Nürnberger Spielkarten Verlag en Allemagne. Et si vous êtes un fidèle de cette chronique, ça doit vous rappeler quelque chose. En effet, car c'est le même duo qu'il y a deux mois, lors de ma présentation du portage de The Game. Alors Quix, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes à partir de 8 ans. C'est un jeu qui a reçu une nomination au Spiel des Jahres en 2013, qui a été édité en France par Gigamic. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce jeu? Parce que ce jeu, c'est un roll and write. Et en ce moment, les roll and write, je crois qu'on peut dire qu'ils ont la cote. Avec beaucoup de jeux de ce type qui sont sortis dernièrement. On peut citer Tréfuté, sélectionné à l'As d'Or cette année. Encore, c'est le nom du jeu. Penny Paper, Dice Star, Welcome to, Harvest Dice, La Route des Vignes, Château de Bourgogne, le jeu de dés, et j'en passe, et des meilleurs. Ou pas. Tous ces jeux sont des dérivés du Yahtzee. Le principe, c'est que vous allez lancer des dés et tenter de faire des combinaisons avec ces dés. et écrire ces combinaisons sur un papier. Voilà. En général, c'est ça. Évidemment, il y a des petites dérives, hein, avec Welcome to, par exemple, ou la route des vignes, qui n'ont plus rien à rouler, si ce n'est éventuellement les feuilles. Quix, lui, est vraiment dans ce principe de base. Vous avez des dés, vous avez des feuilles. Sur ces feuilles, il y a 4 lignes, chacune d'une couleur différente. Pour 2 de ces lignes, les valeurs vont de 2 à 12, et pour 2 autres de ces lignes, les valeurs vont de 12 à 2. Un joueur va lancer les dés. 2 de ces dés sont blancs, les 4 autres représentent chacun une des couleurs du jeu. Le joueur actif va faire la somme des dés blancs et pourra cocher une case de la valeur correspondante dans n'importe laquelle des lignes, ce que vont également pouvoir faire les autres joueurs. Mais en plus, le joueur actif pourra additionner un des dés blancs avec un des dés de couleur et cocher une case dans la ligne de la couleur correspondante au dé choisi. Évidemment, il y a une contrainte dans tout ça. Cette contrainte, c'est que vous devez cocher les cases de la gauche vers la droite, donc dans un ordre croissant ou décroissant selon la couleur. Pour avoir le droit de cocher la dernière case, il faudra avoir coché déjà 5 cases dans cette même ligne, et cela aura pour conséquence de verrouiller la ligne pour l'ensemble des joueurs. Donc on va trouver un peu de stop ou encore, on va trouver un peu de prise de risque, mais le jeu n'est évidemment pas dénué de hasard. Je rappelle que c'est un jeu à partir de 8 ans. Alors il s'agit d'un petit jeu qui est vendu à environ 13€. En tout cas, c'est son tarif chez Philibert, 12,90€. Le portage, donc, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est un portage qui a été assuré par Outline Development sur iOS et qui a été réalisé en novembre 2016. Alors c'est le même éditeur que pour The Game et également Camel Up, qui n'a pas été chroniqué. Il existe également une version Android. Je ne vous parle pas de cette version ce soir parce que je ne l'ai pas essayé et elle est différente surtout. C'est un autre éditeur, en fait c'est une personne seule qui a réalisé ce portage. Donc la version dont je vais vous parler, c'est bien la version iOS qui est donc disponible sur le store à 4,49€. Et là, comme la dernière fois, on va déjà pouvoir se poser la question, 4,49€ comparé au prix de vente du jeu en France qui est à 13€ et en Allemagne à 8€. On commence vraiment à atteindre, je trouve, les limites des tarifs des jeux portés. En tout cas, l'intérêt tarifaire qu'il représente devient vraiment de moins en moins intéressant pour les joueurs. Au niveau de la prise en main, alors vous allez être vite déçu, là encore, on va retrouver que l'anglais ou l'allemand. Il n'y a pas de tutoriel, à la place de ça, on a des règles, alors elles sont quand même relativement simples, et même si vous ne les lisez pas, vous allez vite comprendre le principe du jeu en jouant, parce que c'est pas vraiment bien sorcier. Au niveau des modes de jeu, c'est pas la panacée. Alors on a un mode solo, qui a le mérite d'être original au sens où il n'est pas présent dans le jeu de base. Cela dit, ce mode solo n'est pas bien sorcier, puisqu'il s'agit de réaliser le meilleur score possible en 25 jets de dés. L'autre mode de jeu proposé, c'est un mode de jeu en duo. Vous comprendrez donc par là qu'il n'est pas possible de jouer au-delà de 2 joueurs. Il n'y a pas de mode en ligne, il n'y a pas de mode multijoueur sur le même device au-delà de 2 joueurs. Alors, cela dit, ce mode 2 joueurs est plutôt bien adapté. Je vous conseille quand même de jouer plutôt sur un iPad que sur un iPhone, parce que vous allez être vraiment très petit sur un iPhone. Encore que, avec les dernières générations, ça doit suffire. Mais vous avouerez qu'on se retrouve effectivement à acheter un jeu qui coûte entre le tiers et la moitié du prix du jeu physique, et on se retrouve effectivement avec le tiers à la moitié des fonctionnalités. J'exagère un petit peu. Pourquoi j'exagère un petit peu? En fait, l'application permet également de jouer au jeu normal sur sa tablette. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir, plutôt que d'utiliser une feuille, utiliser votre tablette pour cocher vos cases. Autre ajout appréciable de la version numérique, c'est la possibilité de jouer avec des feuilles de jeux différentes. C'est-à-dire que normalement, vous avez 4 lignes de couleurs différentes avec des valeurs croissantes ou décroissantes. Là, vous avez 2 autres grilles. Une grille qui mixe les couleurs, donc tout en restant croissant ou décroissant. Et une grille qui garde des lignes d'une seule couleur, mais qui mélange les valeurs. Enfin, la version numérique propose des dés. Et oui, vous pouvez lancer les dés sur la tablette, juste simplement lancer les dés. Lancer les 6 dés du jeu, 2 dés blancs et 4 dés des 4 couleurs du jeu, rouge, jaune, vert, bleu. C'est magnifique. En ce qui concerne les autres fonctionnalités du jeu, rien de plus à signaler que ce que je vous ai déjà indiqué, donc la possibilité d'utiliser les grilles numériques ou de lancer les dés, sachant que les deux ne sont pas combinables. Donc rien de bien particulier, en dehors de ça, on va retrouver les fonctionnalités classiques de réglage de son et un tableau de score et puis des achievements qui sont adossés au Game Center. En ce qui concerne l'ergonomie du jeu, rien de particulier à signaler, l'ergonomie est plutôt réussie. En même temps, on n'était pas là devant un défi surhumain, d'autant plus que l'éditeur a fait le choix de limiter le jeu à 2 joueurs. On peut signaler que le jeu ne nous indique pas les possibilités qui sont offertes aux joueurs. Il vous laisse chercher comme dans le vrai jeu, finalement, bien ou mal. Personnellement, je trouve que c'est dommage. Après tout, l'intérêt du jeu, je trouve pas que ce soit de chercher toutes les combinaisons possibles, mais plutôt d'aller tenter de prendre des risques à certains moments et pas à d'autres. Voilà. On dira que c'est le choix de l'éditeur. Je crois qu'on peut donc passer à la conclusion de cette chronique. Personnellement, je pense que l'éditeur a fait un mauvais choix sur le portage de ce jeu. Je pense qu'ils auraient dû proposer une application à 1€ de type Companion, qui propose des grilles qu'on puisse cocher sur son smartphone à la place de cocher une feuille avec un crayon. Mais se retrouver avec une application à 5,50€ qui fait la moitié du boulot, même si elle propose des grilles différentes, le problème c'est qu'on ne peut toujours y jouer qu'à deux. Et je trouve ça particulièrement frustrant. En résumé, si vous avez Quix chez vous, que vous jouez souvent à Quix, que vous achetez des carnets de grilles, et que du coup vous pouvez en faire l'économie avec ce portage, pourquoi pas? Si vous avez Quix chez vous, que vous y jouez régulièrement, et toujours à deux, pourquoi pas? Dans les autres cas de figure, passez votre chemin. Maintenant, je sais pas vous, mais moi je vais prendre ma tablette sous le bras, je vais partir en vacances, et normalement, je vous retrouverai à la rentrée avec de nouvelles chroniques plateau numérique. Je vous souhaite donc de bonnes vacances, et surtout, jouez bien!
Merci Cyrus pour cette chronique. Alors oui, c'est pas la meilleure... Tu vas peut-être économiser un peu de sous ce mois-ci, parce que c'est pas la meilleure adaptation qu'il a testée cette saison.
Non, manifestement, oui, c'est pas...
Mais le jeu de Roll and Write, ça revient en force, et aussi sur les tablettes.
Oui, bah, les jeux de Roll and Write, c'est vrai qu'ils ont un peu le vent en poupe, parce qu'il y en a beaucoup... Enfin, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont sortis et qui sont un peu mis en avant actuellement.
Ouais.
Le mois dernier, on parlait de Tréfuté qui est nommé pour le Kenner Spiel.
Pour le Spiel, ouais.
Pour le Kenner, non, d'ailleurs.
Oui, le Kenner, oui.
Ouais, c'est ça. Et entre-temps, moi, j'y ai joué et effectivement, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. Il y a Welcome Tood qui a quand même beaucoup buzzé, qui a très bien marché.
Ouais.
Encore Penny Papers, enfin, beaucoup de jeux dont, justement, que cite Cyrus. Et c'est vrai que ce sont des jeux, moi sur le papier, c'est le cas de le dire, j'aurais jamais pensé que ça me passionnerait. Et puis c'est des jeux vraiment agréables à jouer, qui pour des durées assez courtes, enfin on peut jouer facilement même le soir, en semaine quand on rentre du boulot, quand on n'a pas le courage de se prendre 2 heures ou 2 ou 3 heures pour un gros jeu. Et malgré tout, par exemple, un jeu comme Tréfuté, il y a de la réflexion, il y a de la stratégie. C'est pas juste on lance des dés puis on marque des choses. Ou Welcome Tood, il y a vraiment des aspects stratégiques dedans.
Ouais.
Et en plus, je pense que c'est aussi des jeux qui permettent de jouer à beaucoup. Par exemple, pour Welcome, on peut jouer en nombre illimité finalement. Bah, tous ces jeux-là, en réalité, il y a pas de limite de joueurs.
Bah, si, quand même un peu, parce que alors Welcome, pas parce que. On joue tous en simultané.
Oui. Mais il y a Tréfuté, tu peux pas. Non, c'est vrai.
Tréfuté, moi j'avais fait une partie à 5 et c'était très très long parce que comme tu dois à chaque fois, tu peux relancer des dés quand c'est à ton tour, ça prend très longtemps. Je pense qu'au-delà de 3, je pense 4 grand maximum, Tréfuté.
De toute façon, le jeu, il est prévu pour 4 ou 5, c'est ça, ou 6 maxi.
Jusqu'à 6, mais je pense qu'à ouais, ça peut devenir long quand l'autre relance des dés, alors que des jeux plutôt comme Encore ou Harvest Dice, le joueur actif ne choisit qu'un dé, enfin aucune combinaison de dés, et donc après il choisit rapidement et les autres peuvent rechoisir derrière et ça tourne.
Ça tourne plus rapidement. Quoi. Je pense que Penny Papers, tu peux jouer en illimité ou comme Welcome Tood, tu peux jouer vraiment. Je pense que la Roue des Vines, je n'y ai pas joué, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait jouer en nombre illimité aussi. Quoi. Donc ce qui est pas mal, parce que parfois on cherche des jeux où on peut comme ça partager vraiment en grand nombre.
Bah, faut juste que. Alors ils disent 100 personnes, mais il faut juste que les 100 personnes arrivent à voir les 6 cartes au milieu de la table. Donc, faut un peu se serrer autour de la table quand même. Et qu'ils puissent.
C'est-à-dire que si elles viennent toutes dans ton salon, il y a un moment, ça devient pénible.
ça. Non, mais voilà, ça peut. Et puis, ils ont, Welcome, ils ont aussi sorti une appli. si vous avez plus de feuilles, si vous êtes venu à bout des 100 feuilles, mais que vous pouvez encore jouer avec votre téléphone et noter sur une fiche de jeu numérique, ouais,
les scores, les implantations, ouais, de maison. Lotissement.
Et je trouve ça c'est plutôt sympa. En plus, elle est gratuite.
Ouais, c'est un bon.
C'est tout gagnant, quoi.
Mais t'as aussi, enfin, il y a beaucoup de gens, enfin, qui proposent des parties un peu pas en ligne, mais où tu peux, qui font une partie en mode solo et qui te disent, bah, essayer de battre mon score avec la même combinaison de cartes. Mm-hmm. Donc c'est aussi des jeux qui peuvent se prêter à d'autres modes, même presque différés. Enfin, on peut jouer presque, ouais, en différé puisque le but va être de battre un score, score type, quoi, ou idéal, ouais, sur une partie. Donc Ça donne une autre perspective à la façon de jouer, finalement.
Ouais.
Et en fait, ouais, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui sortent, ou peut-être que c'est qu'on en parle plus, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, en réalité, il y en a toujours eu des jeux de Roll and Write, simplement aujourd'hui, ils sont vraiment mis en avant, et pas, et mis en avant même comme des jeux, pas si simples que ça, où il peut y avoir de la difficulté, de la stratégie. Mm.
Bah, je pense que oui, ça, après les idées viennent souvent en même temps et c'est vrai que suffit que, bah, il y avait Harvest Dice qui est sorti à Essen, enfin avant Essen dernier. Il y avait Harvest Dice qui a bien marché aussi, où là il faut dessiner des petites carottes, des tomates et des choux. Donc là ça change un peu sur ce principe-là. Et c'est vrai que quand il y a deux, trois locomotives comme ça, je pense que les gens réfléchissent plus à ce genre de choses, et les éditeurs osent peut-être aussi plus, c'est peut-être pas qu'il y en ait plus, mais ils osent peut-être plus en signer,
en sortir et
les pousser sur le devant de la scène, qu'avant on en sortait pour dire voilà, on en a au catalogue et...
Oui.
Et puis voilà, quoi.
Bah, comme il y a un petit hype de ce genre de jeu, ça a peut-être accéléré des sorties de jeux de ce type. C'est un exemple super perso, mais moi on a un week-end familial avec on se fait être très nombreux et beaucoup de non-joueurs. C'est typiquement Welcome ou des jeux comme ça, c'est des jeux que je vais apporter parce que on va être 20, on peut y jouer à 20, ça reste quand même évident.
Ouais.
Enfin, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop gamer, et en même temps il y a quand même de l'enjeu dedans.
Mmh. Ouais, bien sûr. Oui, donc les Roll and Write, ça marche bien, même pour les grands groupes. Et donc pour cet été, on sait que tous les labels de musique sortent leur compile de musique de l'été. Mmh. Et chez nous, chez Proxy Jeux aussi, il y a Suis Jeux avec sa chronique Si le jeu m'était compté, qui nous fait le méga mix de l'été. On écoute ça tout de suite.
J'ai l'histoire. Il descend dans une grotte et il va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'il pouvait imaginer.
Je vais faire les décors en n'ayant pas peur de la couleur. Je vous préviens, apportez vos lunettes de soleil.
Moi, je dessine les animaux.
Je t'envoie des iguanes. C'est extraordinaire.
Ah oui, quel beau monstre. Je me suis fait un petit costume simple et sympa.
Et pourrais-tu prendre un petit accent du terroir?
Vous êtes prêts?
Oui!
Si le jeu m'était compté.
Bonjour, je suis le petit chaperon rouge et ma maman...
Wow. Non, mais t'as déjà entendu, petit hôte, non?
Oui, mais...
Non, mais... La connais, l'histoire. Ta mère veut que tu emmènes le petit pot de beurre chez ta mère grand. Tu t'y rends et manque de bol, y'a le loup, et patati, et patata.
Oui, mais c'est le joueur qui doit m'y emmener avec des petits chemins. Et il contrôle aussi le loup. Et on ne doit pas se croiser avant la maison. Et ça change tous les jours. C'est super pour les petits. Tout il est beau dans la forêt. Et puis c'est super pour la réflexion. La manipulation des petits arbres et des chemins. Et quand on réussit, la satisfaction procurée donne encore plus envie d'y jouer.
Ouais, c'est ce que je dis. On t'a déjà entendu, alors que moi, cela faisait longtemps que je traînais déjà ma bosse dans le métier. T'es prêt? Alors sur moi, à 5, 4, 3, 2, Madame, messieurs, bonjour. Il voulait combattre son oisiveté, il est devenu l'agriculteur le plus connu de France. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais vous n'êtes pas Gérard? Agriculteur à Rapido? Non, moi je m'appelle Antoine. Vous n'êtes pas celui qui a créé un jeu extraordinaire pendant son oisiveté? Un jeu en créant un espèce de petit chemin circulaire dans votre champ, délimité par des petites cases? Non. Mais si, vous y avez à déposer aux deux extrémités deux auges remplies de pommes. Votre copain Dédé nous a montré des petites images de cochons, et il y a posé un numéro dessus, de 1 à 6 qu'il vous a dit. Chaque fermier, du coup, joue à tour de rôle. Il récupère dans sa main les 6 petites images, il en choisit une parmi les 6 et cache les autres. À ce moment-là, un autre fermier, enfin, celui qui joue après lui, doit essayer de deviner l'image qu'il a cachée et avance ainsi son cochon sur le petit chemin du nombre de cases devinées. Non. Enfin, c'est tellement simple, mais c'est tellement efficace. Vous avez du guessing, de la prise de risque. Un enfant de 5 ans pourrait y jouer. Non, mais si vous continuez, je pourrais vous rendre rapide au ciel. Ah bon? Ah bon, c'est comme ça. Bah, racontez-nous quand même votre histoire, là. La France vous écoute. Le truc, c'est que Momo est dans l'ombre, chercher un nouveau bras droit. Et pour ça, il faut asseoir son influence dans les différents lieux de la ville. Pour ce faire, il fallait récupérer des faveurs. Chez certains, c'est à la loi du plus offrant. Soit t'es celui qui aligne le plus de gemmes pour recevoir seul la faveur. En contrepartie, si t'as pas les moyens de tes envies, on te renomme ta mise avec un sourire s'il vous plaît. Par contre, ton influence, tu peux lui faire ses bagages avec un aller simple pour au désert. Pour d'autres, à partir du moment où t'es le dauphin, tu récupères ta mise de gemmes, mais si tu veux quand même l'influence, on te demande d'aligner les olards. Enfin, il y en a où il faut de toute façon payer peu importe l'ordre dans lequel sont arrivés les candidats. Grâce à ça, tu étends ton influence dans différents quartiers comme le commissariat, à la mairie ou le tribunal. Et peut-être donc la chance d'être le bras droit de Momo.
Dis ça, je dis rien, mais moi, c'était quand même plus court. J'ai rien dit.
Alors, est-ce que selon vous, c'est un jeu où on pourrait dire que c'est du placement et de la majorité? Je sais pas ce que vous me racontez comme charabia, mais en tout cas, il y a de la tension, la prise de risque et surtout la mort au bout. Et
oyez, oyez, désormais, c'est ici et uniquement ici que vous ferez le marché de votre royaume. Veuillez vous avancer et faites votre choix.
Wow! Hé hey Didier, viens là, il y a un truc intéressant ici, viens vite. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Hé hey, mon brave, donne-moi le balèze là.
Qu'est-ce que vous faites?
Bah, je prends le balèze. Le gars là nous demande de faire un choix, j'ai fait le mien. Comme à chaque fois à tour de rôle, on va choisir une personne qui défile au nombre de 6 sur l'estrade et celles-ci vont rejoindre nos rangs.
C'est passionnant, dites-moi en plus.
C'est simple, nous devons tous avoir le même royaume avec exactement... un moulin, une brasserie, une herboristerie de sorcière, une tour de guet, une caserne, une taverne, un château et une infirmerie.
Ah, et qu'en faites-vous?
Je crois que je vais finir par en buter un. Bah, nous nous affrontons en 12 manches et nous devons recruter chaque personne à mettre dans notre royaume à ce marché que vous voyez là. Vous y trouverez des meunières, des brasseurs, des sorcières, des gardes, des chevaliers, des taverniers, des reines déchues.
Ah ah! Et vous les choisissez comment?
Eh ben, fini la barbarie, hein, comprenez. On est plus moderne maintenant. Vous voyez ces petits meeples? Eh bien, c'est grâce à ça. À votre tour, si jamais vous voulez prendre la sorcière qui est en premier, comme c'est le cas ici, bah ça vous coûtera rien. Par contre, si vous voulez le brasseur en troisième position, vous devrez déposer un meeple sur la sorcière et un autre sur le tavernier en deuxième position. C'est aussi simple que ça. Et donc, si jamais quelqu'un prend ensuite le tavernier, il déposera donc un meeple sur la meunière, il prendra le tavernier, mais en contrepartie, il pourra aussi prendre un meeple déposé par vous-même au précédent tour.
Ouais, exact.
Excusez-moi. Vous n'avez pas l'impression que c'était moi la vedette, hein? Et suivant ce que vous aurez recruté, vous gagnerez des points de victoire. D'ailleurs, il faut bien être attentif car certains recrutements vous permettront de faire des combos intéressantes. Mais dites-moi, ce jeu puise sa force donc dans sa simplicité et sa fluidité. Il a l'air très malin et un peu calculatoire, rapide, plusieurs types de stratégies à essayer. On ne semble pas s'éparpiller. Bref, on doit passer un agréable moment, non?
Ah oui, ça, c'est sûr. Moi, je...
Sherlock Holmes, puis-je vous aider? Je passais par là et...
Inspecteur Lestrade. Mais enfin, Holmes, vous êtes déjà sur place?
Un simple hasard, inspecteur, un simple hasard.
Bon alors, est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé?
Élémentaire, mon cher Lestrade. Regardez, j'ai créé un petit jeu simple, rapide et dépoussiérant le Cluedo, avec 13 cartes, des 13 suspects ici présents avec des symboles, en nombre différent dessus, allant de la pipe au crâne, en passant par l'ampoule, le poing, l'insigne de police, le carnet de notes, le collier et l'œil. On distribue 4 cartes à chacun au début. on coche les symboles présents sur les cartes, puis on pose des questions pour identifier le coupable. Soit on demande qui a le symbole ampoule par exemple, ou soit on demande combien une personne a des symboles points. Avec de bonnes déductions, on confond le coupable. Brillant, hein, n'est-il pas?
Je vous remercie, Holmes, mais on l'a déjà. Sherlock XIII de Opus Wong.
Comment ça?
Oui, oui, un esprit plus brillant que le vôtre a pris le devant.
C'est lui, c'est lui.
Ah, qu'avez-vous à dire pour votre défense?
Je proteste, hein, c'est la gamine qui...
Mais non, enfin...
Enfin, soyez sérieux, une gamine de 5 ans.
Alors, se le garde, là, sur l'estrade.
Ah non, moi je ne fais que défiler. Et regardez, je ne porte pas d'arme à feu.
C'est pas faux.
Si vous voulez, inspecteur, je peux...
Laissez-moi réfléchir, Holmes. Bon, je ne vois qu'un moyen. Embarquez-moi tout le monde et débarquez-les sur l'île.
L'île?
Oui. Une île déserte où tous les survivants doivent construire ensemble un grand radeau pour donc survivre. Ils pourront donc aller chercher du bois pour le faire. Mais comme ça va prendre du temps, il faudra aussi aller pêcher et recueillir de l'eau pour ne pas mourir. Ou pourquoi pas fouiller une épave afin de trouver des objets aussi utiles qu'inutiles. Évidemment, s'il manque des vivres, il ne faudra pas hésiter à sacrifier vos camarades en cas de pénurie. C'est simple, la coopération avec des soupçons de Kuba. On ressent bien la tension monter au fur et à mesure de l'aventure. Si vous pouvez être le héros qui sauve tout le monde une fois, la fois suivante, vous pouvez être aussi celui dont tout le monde se débarrasse. Ambiance garantie, hein. Tout comme Koh-Lanta, en somme.
Au-delà d'être cruel, franchement, je ne comprends pas en quoi ça va nous avancer.
En fait, je compte sur le fait que personne ne survive, comme ça, ça m'évite de chercher le vrai coupable.
Non, non, mais vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit. Moi, je peux...
Tu comprends quelque chose, toi?
Rien du tout.
Heureusement, lui, c'est quand même plus simple. On se déplace, on construit, on grimpe, on descend, et le premier qui arrive au troisième, bim, il a gagné. Et avec l'aide des dieux, c'est appréciable et c'est différent à chaque fois.
Si tu le dis...
Bah, enfin quoi? Nous, on construit des édifices magnifiques. On est magnifiques. Qui nous dirait le contraire?
Bon, les deux, là. Quand vous aurez fini de rêvasser, vous me mettrez un petit dôme, là, s'il vous plaît. C'est simple.
Beau. Mais c'est un peu la dictature, j'avoue.
Ah ben voilà quand tu veux. Dis-moi, sinon, t'auras pas des nouvelles de ton cousin?
Non. Pourquoi?
Écoutez, Holmes, je vous ai dit que...
Vous pouvez me libérer, moi? J'ai ma mère grand qui m'attend et...
Oh, l'autre. Tout ça parce qu'elle est toute petite et innocente.
Exactement. Vous, rien qu'à voir, on voit bien que vous êtes une brute.
Gaffe le capuchon, sinon je pourrais bien me transformer en loup.
Enfin, calmez-vous, je suis sûr qu'on peut tous discuter calmement.
Oh, toi, la lopette en armure, sélectionne tes chochottes et laisse-nous tranquilles.
Quoi? Quoi? Venez là pour voir.
Calmez-vous, calmez-vous.
Calmez-vous. Calmez-vous, voyons. C'est pourtant élémentaire.
Toi, je vais te faire bouffer ta pipe.
Play-t-il? Bon, bah nous allons vous laisser. Je vois qu'il se fait tard et...
Viens là, le capuchon. Je vais te rendre aussi rouge que ta cape.
Même pas peur.
Répète ce que t'as dit, hein.
Voilà. Il n'en reste qu'un, moi-même, hein, votre serviteur. Hein, comme le jeu, ce jeu aux règles si simples, limpides et sa mécanique si fluide et efficace. Hein, voilà. Quoi dire de plus? Je vais rendre l'antenne. Hein, à vous Paris. Et surtout, jouez bien.
Merci Suijeu pour cette chronique, enfin pour ces chroniques, enfin pour ce méga mix, ce mélange de toutes ces chroniques un peu ensemble.
Oui, alors en général il y a aussi une danse de l'été, mais je ne sais pas.
Heureusement on n'a pas la vidéo.
On n'a pas la vidéo. J'ai des souvenirs comme ça, tu vois, plein de
Macarena.
Oui, de la Macarena. Est-ce que tu te souviens de Carapiccio? C'était des choses comme ça. C'est pas les moments les plus glorieux de la musique, mais.
Ouais. On mettra une vidéo de toi qui danse la Macarena, c'est ça, sur le site.
Oui, je suis pas persuadée que ce soit très, très promo. En fait, il faut regarder cette vidéo avec, en ayant beaucoup bu avant pour que ça paraisse convenable. Ouais, donc oui, bah du coup il nous refait un petit retour dans tous ces univers de l'année, donc c'est assez cool.
Ouais.
On retrouve un peu tous les personnages, ouais. Voilà, on voyage dans les chroniques précédentes.
Dans l'espace et dans le temps. Comme on n'aura pas de voyage dans le temps avec Dani, parce qu'elle était trop occupée sur les brocantes à trouver des jeux. Et on la retrouve bien sûr à la rentrée.
Ça nous manque parce qu'on pouvait, quand on peut parler des trucs de notre enfance, on est toujours content.
Voilà. Et pour rester dans le thème de l'été, alors le pionfesseur, il s'est proposé pour ramener quelque chose pour le barbecue et il nous propose une salade, la fameuse salade de pois. Bah, on va l'écouter tout de suite.
Salut les joueurs, salut les joueuses, c'est la dernière chronique de cette saison de Proxy Jeux et on va en profiter pour parler d'un sujet un peu plus large que d'habitude. On va parler de ce qu'on appelle dans le jargon la salade de points. Un terme relativement récent et qui désigne surtout des jeux de gestion, en particulier ceux de Stefan Feld comme Trajan ou les Châteaux de Bourgogne. Cet auteur étant plus ou moins le représentant emblématique des jeux à base de salade de points. Alors encore une fois, c'est un terme assez difficile à définir, mais souvent on le décrira de la manière suivante. Un jeu à salade de points, c'est un jeu où vous disposez de pas mal d'actions différentes, chacune rapportant toujours d'une manière ou d'une autre des points de victoire qui, eux, vous permettront évidemment de gagner la partie. Bon, ça reste une définition assez minimaliste, et c'est pour ça qu'on va voir ça plus en détail dans cette chronique. Déjà, on peut constater que, au même titre que le terme « jeu de gestion », le terme « salade de points » ne représente pas une mécanique de jeu, mais plutôt un style de game design. En effet, un game design est au final un ensemble de mécaniques que l'on pourrait trier en plusieurs catégories. Il y a des mécaniques de rapidité pour certains party games par exemple. Et dans les jeux de gestion, on trouvera surtout des mécaniques d'action et des mécaniques de scoring. Les mécaniques d'action, ça sera par exemple la pose d'ouvrier, le draft ou les choix simultanés. Des mécaniques qui permettent aux joueurs d'effectuer différentes actions dans les limites régies par ces mécaniques. Les mécaniques de scoring, ce sera par exemple les systèmes de majorité, de collection ou d'objectifs à réaliser. Des mécaniques qui ici récompensent les joueurs en points de victoire pour avoir correctement accompli certaines actions. Ainsi, les mécaniques d'action représentent des moyens, des leviers que les joueurs peuvent tirer, et les mécaniques de scoring représentent la finalité, le but derrière toutes ces actions. C'est d'ailleurs littéralement le but du jeu que de gagner ces points de victoire que nous fournissent ces mécaniques de scoring. Ce qui va déterminer si un jeu se situe dans la catégorie salade de points dépend donc surtout du nombre de mécaniques de scoring qu'il utilise. Si un jeu vous donne des points par-ci par-là, un coup avec une majorité, un coup quand vous faites telle ou telle action, en fin de partie pour de la collection, mais aussi si vous avez beaucoup bourriné dans une même action, et encore à côté pour X ou Y raison, alors il y a de grandes chances que ce soit un jeu salade de points. L'exemple typique serait Trajan de Stefan Feld, puisque le jeu n'a qu'un seul mécanisme d'action, chaque action étant en soi un petit mécanisme de scoring, un peu tarabiscoté comme Stefan Feld aime le faire. Bon, j'ai volontairement un peu schématisé quand je dis ça, mais en vrai, certaines actions permettent un peu d'interaction entre elles, tellement moindre que on peut ignorer ça, et je pense que vous voyez de toute façon l'idée que je voulais vous faire passer. Les jeux à salade de points sont donc ce qu'on pourrait appeler des jeux ouverts. C'est-à-dire qu'ils offrent en général beaucoup de stratégies différentes possibles, puisqu'il y a plein de manières de marquer des points. Le but ne sera alors pas d'optimiser une tactique pour marquer le plus de points, mais plutôt de chercher quelle stratégie mène vers le plus de points. Disons que dans un jeu plus fermé, vous êtes sur un chemin et vous essayez de ramasser le plus de points en cours de route. Alors que dans un jeu plus ouvert, vous avez plein de chemins possibles et vous essayez de deviner lequel vous mènera au plus de points possible. Alors bien évidemment, si les jeux à salade de points sont par définition des jeux ouverts, l'inverse n'est pas forcément vrai. Si votre jeu est ouvert, il n'est pas forcément un jeu à salade de points. Si vous voulez approfondir ce principe d'ouverture et de fermeture des jeux, je vous invite à lire l'article très pertinent de Grosvast sur Ludovox que je vous mettrai dans la description. L'autre aspect intéressant de ces jeux, c'est qu'il est du coup difficile pour les joueurs de calculer quel coup leur rapportera le plus de points, car le joueur est face justement à beaucoup de chemins possibles. Pour l'auteur du jeu, c'est un choix assez malin puisqu'il donnera alors assez facilement ce sentiment de faire des choix cruciaux aux joueurs. D'ailleurs, chacun de ces choix sera souvent récompensé par un petit peu de points de victoire par-ci par-là, des petits cycles de récompenses qui donnent aux joueurs un sentiment de progression. Néanmoins, il n'y a pas que des avantages à faire un jeu salade de points. Et la première évidence, c'est que ce genre de jeu implique très souvent une certaine lourdeur de la règle, et donc une inaccessibilité pour les plus débutants. D'autre part, c'est assez difficile d'avoir une thématique forte et immersive dans ce genre de jeu, puisque comme on l'a dit tout à l'heure,
ce sont des jeux où les mécaniques de scoring sont un peu partout, et donc il n'y a pas d'objectif précis, mais bien plusieurs petites manières de mettre des points ici ou là. D'ailleurs, avec ces jeux, c'est difficile de répondre à la question « qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu ?» car on peut justement un peu tout faire. Tous ces points étant donc un peu l'antithèse d'un jeu à thématique forte, où les objectifs se veulent en général bien plus clairs et bien plus précis. Le dernier souci que l'on peut trouver dans ces jeux, bien que les débuts et milieux de partie soient des moments forts en termes de choix, plus on approche de la fin de la partie, là où il est plus simple de voir directement les conséquences de nos choix, plus la richesse de la salade de points risque d'entraîner une longueur de réflexion de la part des joueurs, voulant optimiser leurs coûts, provoquant parfois des situations d'analysis-paralysis. Pour conclure, on a vu que la salade de points n'est pas vraiment une mécanique en soi, mais plutôt un style de game design, impliquant d'utiliser beaucoup de mécaniques de scoring afin de donner beaucoup de choix aux joueurs en leur permettant de nombreuses stratégies, tout en évitant un aspect trop calculatoire du jeu puisque tous les chemins peuvent être viables. Malgré les défauts de froideur et de lourdeur de ces jeux, c'est un style relativement récent qui tente à se rapprocher des jeux plus légers, comme on peut le constater aujourd'hui avec des jeux comme Welcome ou Tréfuté, qui introduisent de la salade de points dans le style Roll & Write. On peut se demander cependant si ce n'est pas aujourd'hui une recette de game design un peu facile, où l'auteur n'aurait plus qu'à se servir parmi des mécaniques de scoring existantes, les mélanger, saupoudrer d'une mécanique d'action, et obtenir ainsi une bonne salade de points. À tel point qu'un jeu parodique existe en print and play, Point Salad, The Salad Building Game, un jeu de salade de points où vous allez confectionner littéralement des salades, chaque ingrédient ayant sa propre manière de scorer. Et vous, est-ce que vous connaissez de bons ou de mauvais exemples de jeux à salade de points ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien !
Merci le Pionfesseur pour cette analyse. Alors, la salade de points, moi je connaissais pas. Bon, alors, je suis pas très, très fan de Feld, mais tu connaissais, toi ?
Ben oui, parce qu'en fait, pour avoir joué récemment avec le Pionfesseur, un jeu de Stefan Feld, du coup je connais bien l'expression.
Ah, il t'a spoilé sa chronique en live, c'est ça?
On a joué à Bora Bora ensemble et il m'avait un peu déjà, il avait déjà utilisé le terme. Donc, du coup, en écoutant la chronique, j'ai tout à fait compris à quoi il faisait allusion.
Ouais.
Donc, ces jeux où tu peux scorer de plein de manières différentes et où finalement, il n'y a pas une seule et unique manière de scorer efficace et où tout est fonction de choix que tu fais.
Ouais, de la vision globale que tu as du jeu et de comment t'orientes ta
stratégie. Ouais. Après, tu peux avoir aussi des strates. Enfin, quand tu connais déjà un jeu, tu peux avoir envie de faire une stratégie au départ que le cours du jeu ne te permettra pas de mettre en application et du coup, tu vas te voir un peu de t'adapter, ce qui est pas mal parce que ça c'est aussi une grande force quand t'es obligé d'adapter ta stratégie. Parce que c'est vrai qu'il y a certains jeux où tu t'aperçois qu'il y a une façon de scorer assez mécanique et où quand tu connais bien le jeu tu vas avoir tendance à reproduire toujours le même schéma. Là on est dans des jeux où tu peux te permettre d'être un peu plus aventurier et tenter des choses,
de tenter des trucs quoi, de dire ouais cette partie là je vais plutôt m'orienter sur cet aspect du scoring plutôt qu'un autre aspect.
Et ce qui est très difficile c'est que souvent c'est pas, pour que le jeu fonctionne bien dans ce domaine il faut que les manières de scorer soient à peu près équilibrées. Parfois, c'est après coup, tu te rends compte qu'il y a quand même des manières de scorer qui sont plus rémunératrices, si on peut dire ça comme ça, que d'autres.
Ouais.
Et là, tu peux avoir des petits regrets. Et c'est vrai que c'est toujours le problème de jeux auxquels tu joues beaucoup. Et c'est de tomber un peu que dans une espèce de... Enfin, tu fais toujours la même chose. Et là, il n'y a plus le fun du jeu, quoi.
Bah oui, mais parce que le jeu, c'est comment est-ce que je vais réussir à battre les autres joueurs, avec quelle tactique, quelle stratégie. Et s'il y a une stratégie qui est plus gagnante que les autres, c'est sûr que tu vas refaire. Et si tu fais toujours celle-là, au bout d'un moment, c'est un peu répétitif dans le jeu.
Ça devient super lassant. Après, il y a aussi... Enfin, il y a aussi le fait que il s'agit de jeux dans lesquels tu ne sais pas forcément avant le décompte final qui est en tête. Parce que comme tu grappilles des points par-ci, par-là, tu as souvent des effets de fin de partie quand même qui vont se déclencher et qui vont te permettre vraiment là de creuser des différences, mais sur des tableaux différents. Typiquement, les châteaux de Bourgogne, tu peux faire la course en tête et pourtant perdre à la fin. Enfin, c'est vraiment le cas. Enfin, tu peux avoir des effets vraiment de décompte de fin de partie qui te font, enfin, qui font faire gagner un joueur qui était pourtant bien derrière. Et moi, je trouve que c'est des jeux qui sont plus satisfaisants où tu ne sais pas forcément qui, où tu n'as pas de la visibilité de qui gagne.
Ouais.
Voilà, à titre personnel, je trouve ça plus intéressant parce que les jeux où tu as un joueur qui est vraiment en tête, qui fait la course en tête et où tu sens très vite que tu ne pourras plus le challenger, bah, tu subis un peu tout le reste de la partie.
Ouais, mais à contrario, tu peux croire qu'un joueur est en tête parce qu'il marque beaucoup de points, mais des points qui sont, tu vois, que tu gagnes au fur et à mesure, alors que d'autres font des points, enfin engrangeront plus beaucoup de points avec leurs actions, mais en fin de partie. Du coup, ça fausse un peu le truc. Donc,
je sais qu'il y a il y a des gens qui reprochent ça parfois à des jeux de dire on n'a aucune visibilité sur si ce qu'on fait est efficace ou pas. Et après, c'est peut-être aussi un débat sur le fait de savoir est-ce que c'est plus important finalement d'avoir le. Enfin, est-ce que tu fais les actions pour que marquer des points ? Parce que c'est des types de jeux où souvent le dernier tour, tu vas peut-être faire juste des trucs pour faire un ou deux points de victoire en plus, à l'encontre même de la logique du jeu et de l'esprit du jeu. Donc parfois, je trouve que vouloir marquer des points de victoire à tout prix peut aller à l'encontre de l'esprit du jeu. En fait, c'est pour ça que c'est bien de ne pas voir le score, enfin, de ne pas avoir trop de vision du score, parce que tu dois jouer dans l'esprit du jeu.
Ouais.
Juste dire je vais convertir un truc pour faire deux pièces d'or qui, parce que les groupes de deux ils vont me faire un point de victoire, bah c'est un peu moche de faire ça, tu vois, c'est super opportun, enfin moi je trouve ça un peu moche, je le fais aussi hein. je suis con, mais quand même il y a des limites, mais ce que je veux dire c'est qu'on le fait tous pour marquer un ou deux points de plus parce que parfois ça fait la différence, et pourtant c'est parce qu'il y a de plus joli à faire, c'est d'un point de vue de l'esthétique dans la logique du jeu, le jeu il te demande pas de faire ça. Le jeu il te demande de faire des actions cohérentes. Bah je pense au château de Bourgogne, il y a ça. Enfin pour avoir fait quelques parties récemment, les derniers tours, c'est vrai tu peux faire deux ou trois manips qui te permettent de récupérer des points de victoire de façon totalement presque artificielle, un peu. Je sais plus si c'est avec les. Par exemple, t'as une action qui te permet de récupérer des ouvriers. Je crois que par lot d'ouvriers à la fin, tu marques des points. Alors que tes ouvriers, tu les utiliseras jamais plus puisque t'as plus d'action à faire derrière. Donc c'est en vrai, il y a aucune logique à aller chercher des mecs qui te serviront à rien puisque t'as plus d'action, sauf à marquer tes points de victoire. Donc dans le côté scoring, ça a une logique, mais dans l'esprit du jeu de je prends des ouvriers parce que je vais en avoir besoin pour faire des actions après, ça n'a aucun sens.
Oui, bien sûr.
Donc on peut un peu, t'as un peu l'esprit du jeu puis l'esprit du score qui sont pas forcément, enfin de.
Mais après le but du jeu c'est de gagner quand même.
Mais non, l'esprit.
Ah, c'est de jouer.
Mais
c'est
non,
ça.
Je suis pas.
Bah ouais, mais l'esprit.
Oui, c'est d'aller dans le, c'est de.
Mais non, mais c'est que c'est pensé aussi parce que sinon il te ferait pas, enfin tu vois, sur cette histoire d'ouvriers qui te rapporteraient des points si t'en as plus à la fin. Du coup, tu les prends à la fin parce qu'ils te rapportent des points, mais s'ils rapportaient pas de points, tu les aurais pas pris. Donc, c'est pensé dans le gameplay.
Après, je suis plus sûre exactement si c'est ça, hein, mais il me semble que par les ouvriers non utilisés te rapportent des points. Mais enfin, il y a des trucs comme ça dans certains jeux où tu sais que tu peux faire des trucs un peu gratuits juste pour récupérer quelques points à la fin. Et on le fait tous parce qu'on va pas s'en priver. Mais c'est toujours un peu frustrant quand tu fais ça. Tu as le sentiment de faire un truc pas très. C'est pas hyper élégant. Disons que les points que tu gagnes, ils sont moins élégants que les points que tu auras gagnés à la sueur de ton front en bien réfléchissant à comment agencer tes actions et tout. Donc y a quand même, tu vois, c'est un peu l'élégance dans la victoire ou dans la défaite.
Ouais, c'est plus d'accomplissement de réussir à marquer des points dans l'esprit du jeu que de grappiller calculatoirement des points.
Voilà, dans les jeux de gestion, il y a quand même l'idée de développer au mieux un univers, de l'améliorer, en allant chercher des ressources, en achetant des bâtiments. Enfin, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais c'est souvent un petit peu ça. Et c'est vrai que tu tends vers une espèce d'harmonie quelque part. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est souvent frustré, parce qu'on aimerait tout faire pour que ce soit harmonieux, et on ne peut pas le faire. Donc quand tu vas juste à la fin chercher racler 2-3 points, d'ailleurs souvent tu t'excuses de le faire. Moi je m'excuse toujours quand je le fais, je dis toujours bon je suis désolée, c'est pas top, mais je vais faire ça parce que voilà.
Parce que je veux gagner.
Deux points ça peut faire. Ouais. J'aimerais quand même gagner à la fin. Et... Surtout quand je joue contre mon fils qui me bat tout le temps, donc, comme vous le savez tous.
Et quand lui le fait, tu dis non, mais ça, c'est pas dans l'esprit du jeu.
Voilà, je lui dis, mais tu n'as aucune élégance, tu n'as rien compris. Mais moi, il y a des tas de gens qui te sortent des trucs, bah, tu sais, où ils disent non, mais là, c'est pas vraiment l'esprit du jeu de gagner comme ça. Genre à Seven Wonders Duel. Non, mais le militaire, c'est pas vraiment l'esprit du jeu. Bah, si, quand même. Bah,
si ça participe, si ça rapporte des points, c'est forcément dans l'esprit du jeu. Après, c'est sûr que des fois, il y a des actions qu'on fait, certains jeux pour. Qui rapporte juste des points, mais qui te rapporte rien en plus. Enfin...
C'est un peu comme quand tu fais des actions juste pour emmerder l'autre, tu vois, pour l'empêcher lui de faire un truc mieux. Bon, c'est pas élégant, mais c'est efficace, quoi.
Mais ça fait bien râler autour de la table aussi.
Voilà, exact.
Et du coup, on va enchaîner sur ta chronique.
Oui.
Tu nous parles de quel jeu ce mois-ci ?
On parle de Fantômes. De jeux dont les fantômes sont les principaux protagonistes, avec d'une part l'escalier hanté qui est vraiment pour les jeunes enfants, et puis Ghost qui est déjà un petit peu pour même pour adultes, hein, mais qui est vraiment accessible à des enfants de 6, 7, 8 ans, quoi. Enfin, s'ils sont un peu dégourdis, 6 ans, et puis sinon à partir de 8 ans sans problème.
Ok, on écoute ça tout de suite.
Maman, je m'ennuie.
Tu veux qu'on fasse un jeu ?
Oui, tout sauf le Monopoly.
Tu connais Marrakech ? C'est comme le Monopoly, mais en 100 fois mieux.
Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Je suis toujours Paul Gara et ce mois-ci j'ai une confidence à vous faire. Je crois aux fantômes. Je crois aux fantômes. Je crois aux fantômes. Bon alors rassurez-vous, pour de vrai je n'y crois pas du tout. Je n'ai juste pas pu résister à l'envie d'emprunter cette réplique au lion peureux du magicien d'Oz, car dans le monde des jeux de société, les fantômes existent bel et bien. Et oui, ce mois-ci dans Joueurs Nés, je vous propose deux jeux, pour petits et un peu plus grands, accueillant des spectres, des poltergeists, des esprits frappeurs, des revenants, des apparitions, bref, des fantômes. En premier lieu, parlons de l'escalier hanté, qui constitue probablement mon jeu préféré pour jeunes enfants, et qui a gagné le Kinderspiel 2004. Ça ne nous rajeunit pas. Édité en France par Gigamic, disponible chez Philibert au prix de 24,90€, l'escalier hanté est un jeu de Michel Le, mais oui, une femme, Shannon, illustré par Rolf Vogt, et recommandé pour les enfants à partir de 4 ans. Il est également disponible dans sa version allemande, Geisterstreppe, édité par Try My Gear, est disponible chez Philibert au prix de 29,95€. Alors, entre nous, j'ai la version allemande, car j'avais cru comprendre des retours clients que le matériel de celle-ci était plus réussi que celui de la version française. Alors, un peu de préjugé, hein, c'est la Deutsche Qualität. Donc, dans l'escalier hanté, les joueurs incarnent des petits fantômes qui doivent gravir l'escalier d'une tour en ruine afin d'en atteindre le sommet en premier. On jette le dé et hop, on avance du nombre entre 1 et 4, figurant sur le dé. Alors jusque-là, vous me direz, rien de bien nouveau et rien de bien excitant. Mais attention, le dé comporte deux faces sur lesquelles figure un sympathique petit fantôme. Les premières fois que l'on obtient ce symbole, on a le droit de transformer l'un des pions en fantôme, au sens propre puisque l'on recouvre son pion de couleur d'un petit costume de fantôme. Et ce qui est alors très fort, c'est que le haut de la tête du pion est aimanté et reste ainsi bien accroché au costume de fantôme. Ainsi, rapidement, chaque pion de couleur a totalement disparu pour laisser place à de simples fantômes blancs, tous identiques. Pas question, bien sûr, de soulever les pions pour vérifier sa couleur. Hein. On doit se contenter de les laisser glisser dans les escaliers de la tour. Alors, en aparté, si j'en crois les avis des joueurs, c'est sur ce point de l'aimantage précisément que le matériel diffère entre la version française et la version allemande du jeu. Mais je me contente là de colporter ce qui est peut-être une terrible légende urbaine, puisque je n'ai pas pu me livrer moi-même à un véritable comparatif des deux versions. Donc avis aux auditeurs pour les commentaires. C'est donc ensuite que le jeu prend toute sa saveur, car à chaque fois que l'on révélera un fantôme avec le dé, on devra intervertir deux fantômes sur le plateau de jeu. Autant dire qu'après quelques échanges, il devient très difficile de se souvenir de l'emplacement exact de son pion, ce qui conduit donc à un pari et une prise de risque à chaque fois que l'on ferait progresser l'un des fantômes sur les marches branlantes de l'escalier. Vous l'aurez compris, l'escalier hanté est un jeu particulièrement réussi, parce qu'il offre du challenge tant aux enfants qu'aux adultes. Les joueurs sont tous à égalité autour de la table de jeu. Voir les enfants, on a un léger avantage comme dans tous les jeux de mémoire. Et lorsque l'on parvient enfin à faire progresser un pion au sommet de la tour et que l'on révèle le pion caché sous le fantôme, ça constitue un moment particulièrement amusant du jeu. Quant au matériel, si le plateau de jeu reste un peu austère à mon goût, oui, l'illustration d'escalier reste très très simple et aurait probablement pu être un peu plus recherchée, les costumes de fantômes que l'on enfile au pion colorés sont réussis et rappellent le fantôme Playmobil phosphorescent de mon enfance. Côté configuration, le jeu est tout à fait jouable à 2 ou 3, car dans ce cas, on joue tout de même avec les 4 pions afin de conserver l'effet voulu par le jeu, c'est-à-dire ne plus savoir où se situe exactement son pion parmi ceux présents sur le plateau. Le seul point négatif réside peut-être dans le cas rare, mais tout à fait possible en termes de probabilité, où au démarrage de la partie, personne ne parvient à tomber sur la face fantôme du dé. Parce que dans ce cas, le jeu devient vite un peu barbant, puisque l'on va se contenter de faire avancer son pion de façon très mécanique. Ceci dit, il peut très bien y être remédié en décidant que dès le début de la partie, tous les joueurs revêtent leur habit de fantôme. On conserve donc cette ambiance d'outre-tombe avec Goust, le jeu d'un illustre inconnu, Richard Garfield, illustré par Dimitri Chapuis et édité par Yellow. Il est disponible sur le site de Philibert au prix de 13,50€. Goust est un jeu de cartes recommandé aux enfants à partir de 8 ans, mais largement accessible à des enfants plus jeunes. L'objectif est de se débarrasser de toutes ces cartes, exactement comme dans le Uno. Aïe. Bon alors là, j'imagine que vous avez tous fui et profité des time codes pour changer de chronique. Alors, je vous rassure immédiatement, il existe quelques similitudes entre Goust et le Uno, mais elles restent basiques, voire simples, et Goust offre plus que de simplement poser ses cartes dans l'ordre croissant pour les défausser. En effet, dans Goust, chaque joueur reçoit 4 cartes qui constituent sa main, ainsi qu'un nombre de cartes, fonction du nombre de joueurs, que l'on pose face cachée devant soi et qui constitue son manoir. Dans un premier temps, on joue uniquement avec les cartes que l'on a en main. On pose ces cartes dans l'ordre croissant, donc les cartes sont numérotées de 1 à 14, dans le cimetière, c'est-à-dire la défausse, avec la possibilité de poser des paires, des triples ou des quadruples, qu'on appellera ici des quatuors de Goust. Poser une paire ou un triple implique de rejouer, tandis que poser un quatuor de Goust permet de vider le cimetière et donc de bannir les cartes déjà défaussées jusqu'à la fin de la manche. Un quatuor peut également être formé si l'on joue par exemple une carte identique à un triple Goust précédemment posé. On pioche alors dans la crypte la pioche pour toujours avoir au moins 4 cartes en main. Et si l'on ne peut rien poser, bah évidemment, on pioche. Et si la carte piochée ne peut pas être posée, bah on ramasse toutes les cartes défaussées dans le cimetière. Une fois la crypte vidée, et qu'on ne peut plus du tout piocher, bah on peut commencer à vider son manoir. Alors pour cela, il faut au début de son tour n'avoir aucune carte en main. Dans ce cas, on peut alors prendre la première carte face cachée, posée devant soi. Si on peut la jouer, eh bien on recommencera la même mécanique au tour suivant. Bah sinon, on doit récupérer la défausse. Le vainqueur est donc celui qui, en premier, parviendra à vider son manoir de tous les fantômes le hantant. Ce qui corse le jeu est que certaines cartes ont des effets spéciaux. Par exemple, la carte Skeletum, le 11, qui permet de défausser toutes les cartes posées précédemment. Ou bien Scooty, le 1, qui peut être joué sur n'importe quelle carte. Igor, le 12, qui limite les cartes qui peuvent être jouées après lui. Ou encore Miskitty, qui n'a pas de numéro et qui fonctionne comme un joker. D'un point de vue visuel, le jeu est extrêmement réussi. Les illustrations rappellent les dessins animés Tim Burton dans une ambiance morbide mais élégante à souhait. Et elles ont souvent un petit côté décalé humoristique qui plaira tant aux parents qu'aux enfants. Du point de vue de sa mécanique, le jeu fonctionne bien une fois que l'on a bien intégré les règles. Et à ce titre, je ne trouve pas que la règle du jeu soit toujours très lumineuse sur certains points. Ce qui fait son attrait est que d'un point de vue stratégique, on peut ne pas avoir intérêt à poser une carte dans la perspective de récupérer la défausse ou encore de poser des quatuors de cartes. Les cartes spéciales permettent quant à elles de vraiment bloquer ses adversaires. Ma seule réserve repose sur certaines expériences de jeu que j'ai pu avoir. En effet, certaines parties de Goust ont été très fun et se sont jouées rapidement de façon fluide, tandis que d'autres ont été nettement plus laborieuses à un point tel qu'on avait l'impression qu'on n'allait jamais réussir à vider notre manoir. C'est tout pour cette chronique, c'est tout pour cette saison. D'ici la saison 9 en septembre prochain, profitez de vos vacances et jouez bien, surtout avec vos enfants.
Merci Paul Gara pour cette chronique et pour ces deux jeux enfants. Alors, le Playmobil phosphorescent, ouais, moi je l'avais aussi avec son boulet. que tu pouvais lui accrocher à la cheville, c'était
extraordinaire ce Playmobil.
C'était magnifique, ouais.
Ouais, voilà. Moi, on faisait exprès de tout fermer pour pouvoir le voir phosphorer. Et on faisait waouh, c'est génial.
Bah oui.
Ah non, mais on était fans.
Ouais, oui, le mettre sous les couvertures pour
exact.
Voir.
Et donc moi, quand je les vois, je pense toujours à ça. Donc, mais ils l'ont ressorti, hein, ils le ressortent régulièrement en Playmobil, le concept du fantôme phosphoré.
Donc ça trahit.
Il est indémodable.
Ça trahit pas notre âge alors qu'on n'avait pas de console en fait... de jeux vidéo, mais qu'on allait qu'on jouait avec des Playmobil.
Voilà. Mais c'est bien parce que souvent ils recyclent quand même Playmobil. Mais non, l'escalier hanté, c'est vraiment un super bon jeu. Donc, même pour adultes, hein, on prend vraiment du plaisir à y jouer parce qu'il n'y a pas du tout de. C'est pas un jeu simpliste où on va vraiment jouer avec les enfants pour jouer avec eux plus que pour jouer soi. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Et puis, assez accessible en fait. Même, je crois que c'est 4 ans. C'est ce que je disais, c'est 4 ans. Mais même un petit peu plus jeune, ça passe. Après, ce qui est plus dur, c'est pour les enfants, mais on peut les guider, c'est quand ils vont intervertir des fantômes sur le plateau, faut bien leur montrer quel fantôme, enfin les deux fantômes mettent le doigt là où on les prend pour pas que, parce que sinon ça peut un peu changer le cours du jeu.
Et Ghost, moi j'avais fait une partie et j'avais pas trop accroché.
Moi, je trouve que c'est un jeu un peu bizarre parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. J'ai fait des parties super cool et d'autres parties vraiment un peu... c'est pas pénible, mais qui ne se terminaient pas. Et je suis un peu étonnée. Après, c'est un jeu vraiment facile parce que c'est un jeu de cartes qui reprend le principe du Uno qui est quand même très connu. Et du coup, tu peux le proposer à beaucoup de joueurs différents. Le fait que tu aies des cartes avec des pouvoirs spéciaux, ça rajoute. En fait, c'est ça qui aussi. Il y a un peu plus de. Il y a de la stratégie, donc ça donne du piment au jeu. Mais c'est un jeu que j'aime bien. Pourtant, c'est pas garanti à tous les coups d'avoir une super partie.
Ouais, bah.
Mais typiquement, c'est un jeu auquel tu peux jouer facilement avec des enfants parce que c'est assez simple. Eux, ça leur parle très bien. Et je crois que les illustrations participent beaucoup aussi au plaisir du jeu. T'as beaucoup de plaisir.
Ouais, c'est vrai qu'il est joli.
À découvrir les personnages. Ouais, c'est vraiment très très réussi. Hein.
Ouais, mais moi, je sais que j'ai fait une partie, j'avais pas compris le principe, l'intérêt du jeu, quoi. Mais c'est vrai qu'il fallait peut-être laisser une deuxième chance avec d'autres personnes, enfin,
aussi
avec d'autres configurations.
Franchement, les règles du jeu sont pas très très claires, sont pas toujours claires. Et il y a des tas de points où tu as vraiment des hésitations. Et quand tu fais ta première partie, tu as des petits à-coups parce que tu reviens, tu n'es plus sûr d'avoir bien lu, d'avoir bien compris. Et quand tu refais la deuxième partie, c'est déjà beaucoup plus limpide. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un autre jeu qui n'est pas du tout un jeu pour enfants, qui s'appelle, je ne vais pas le retrouver le nom, c'est un jeu dans l'univers de Cthulhu, je crois que c'est Terreur à Riley. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Et en fait, c'est exactement le même jeu.
Ok.
Puisque tu as un tas de cartes que tu poses devant toi, comme ça que tu as le droit d'utiliser que quand tu as vidé ton premier... Alors bon, là, il y a des effets sur les cartes. C'est la différence, c'est que tu as des effets sur les cartes de mémoire. Et on y avait joué un festival avec mon fils, et en y jouant, on s'est dit, mais c'est exactement le même... après, la même mécanique de j'ai un tas devant moi, je peux les tirer qu'au fur et à mesure. Et après, je pose par numéro avec des cartes qui ont des effets. Bon, là, c'est des effets marqués sur les cartes. Et j'ai trouvé que dans le style, finalement, celui-là est presque plus compliqué avec les effets et Ghost fonctionne mieux parce que c'est un tout petit peu plus simple et du coup beaucoup plus fluide. Mais c'est vraiment des jeux que tu peux donner à des enfants, même pour qu'ils jouent tout seuls. Une fois qu'ils ont pigé que tu leur as bien expliqué la règle et qu'ils n'ont pas eu besoin de la lire, ils peuvent facilement jouer. Enfin, typiquement, fin d'année scolaire, tu peux envoyer tes enfants à l'école avec sans trop de difficultés.
Ouais, c'est Terreur à Riley, je pense. C'est chez Edge.
Ouais, moi, j'avais trouvé le jeu un peu bizarre, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Pour moi, j'ai eu exactement la même impression de jouer exactement au même jeu, mais dans un autre univers, avec quelques petites différences. Mais pas plus que ça. Enfin, la mécanique restait la même.
Ouais, bon... Je ne sais pas.
Bon, après, on va rejouer à Ghost ensemble, alors. Il faut absolument...
Voilà. Pourtant, c'est pas le même auteur hein, qui a, non, qui a crédité sur, sur Terreur à Raleigh.
Non, non.
Ouais, il a peut-être repris une mécanique qu'il appréciait bien.
Oui, puis bon, en même temps, c'est pas une mécanique. Enfin, c'est une mécanique assez. Tu vois, je pense pas qu'on puisse la breveter, celle-là. Elle est, finalement, elle est assez. Elle est trop répandue pour être considérée comme suffisamment novatrice.
Ouais.
Mais bon, voilà, après, il y a le côté sympa, il y a la crypte, le manoir, il y a un petit effet d'ambiance aussi qui apporte au jeu et qui joue bien là-dessus. Donc,
ouais.
Ça participe en fait à l'immersion, parce que tu peux pas dire que ça reste un jeu de cartes assez simple, donc t'es pas vraiment. Mais il y a vraiment. Ils ont fait l'effort de tout. De thématiser vraiment la pioche, la défausse, etc. Pour rester dans le thème qui a été choisi.
Dans l'intérieur. Ouais. Dans l'intérieur de la boîte aussi.
Oui, voilà,
mémoire.
Tu te sers de la boîte. C'est ça. Et du coup, quand tu vois là, si tu fais une soirée Halloween, mm-hmm. c'est le genre de jeu que tu peux proposer comme jeu dans l'ambiance, quoi.
Ok. On va donc continuer avec Ludo Incognito, Acariâtre, qui nous parle aujourd'hui du jeu comme concept impossible à définir. On va l'écouter tout de suite.
Ludo Incognito. À la découverte de la faune ludique.
Cela fait déjà presque un an que je parcours les contrées sauvages de Ludo Incognito. Ses habitants, ses pratiques, me sont aujourd'hui familières. Je suis loin d'avoir tout découvert, mais je me sens aujourd'hui différent. L'effet de ce monde sur moi est indéniable. Durant la première saison de cette chronique, nous avons été à la rencontre des écrits fondateurs de l'étude des jeux. Celle-ci commence d'ailleurs toujours par tenter de définir ce qu'est réellement un jeu. Mais s'il fallait en retenir quelque chose, ce serait d'abord ceci. Le jeu est un concept impossible à définir formellement. Le jeu échappe à toute définition parce qu'il n'est ni un objet ni une tâche. Le jeu est plutôt une décision interne du joueur, une posture d'ailleurs changeante au gré des moments, des caractères et des époques. Ce qui est un jeu pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est un jeu maintenant ne le sera pas forcément plus tard. En fait, je joue uniquement parce que je l'ai décidé ainsi. Le deuxième enseignement de cette année d'exploration est que tout jeu est un jeu avec la réalité. Ni tout à fait réel, ni tout à fait irréel. Les joueurs et joueuses créent de leur plein gré l'illusion du jeu. Mais ils prennent aussi garde de ne pas y croire vraiment, pour que tout cela reste vraiment du jeu. Le jeu est donc affaire de distance, ou pour le dire autrement, de second degré. Je me sens aujourd'hui plus à l'aise ici, au sein du continent ludique, que je ne l'étais dans mon monde d'origine. Ma vie n'est pas plus simple, mais tout me semble plus léger. Ici, rien n'est grave, ou du moins ne le reste bien longtemps. Soyons honnêtes, mon ancien monde me terrifie. Nous sommes perdus sur un caillou voguant à vitesse folle dans un espace vide et sans contour. Certains de rien, sauf de notre disparition à venir. Et pourtant, mes contemporains et moi-même affichons un sérieux à toute épreuve, nous abandonnant à de grands principes creux, et des tâches vides de sens, refusant simplement de regarder la terrifiante réalité en face. Ludo Incognito m'offre un réconfort fragile mais réel. Parfois, la réalité disparaît derrière une partie de jeu, trop prenante. Plus souvent, la gravité du monde m'est moins pénible, une fois observée sous l'angle ludique. Pourquoi passons-nous autant de temps à jouer et à parler du jeu ? Le jeu occupe aujourd'hui une place importante dans ma vie, et sans doute dans la vôtre aussi. Je ne peux pas parler pour vous, mais pour moi, un double mouvement est visiblement à l'œuvre. Tout d'abord, le jeu est une confrontation. Il permet de ne pas prendre les injonctions du monde moderne trop au sérieux. Par sa mise en distance, il interroge les prétendues vérités qu'on nous assène continuellement. En bonne complexité avec l'humour, le jeu veut faire vaciller les certitudes. La mort est inévitable et c'est ça la blague. Cette part du jeu séduit mon esprit d'indépendance. Mais le jeu est aussi une fuite, un refuge. Un lieu où les aventures sont épiques, mais les défis toujours réalisables. Un lieu que quelqu'un a pensé et il y a judicieusement placé une issue. La mort est moins terrifiante après l'avoir déjà vécue 100 fois. Le monde réel disparaît quand je suis pris dans le jeu. Ce jeu-là, c'est du mal acheté. La condition humaine est terrifiante. Elle devrait être paralysante si l'esprit ne fabriquait pas 1000 astuces pour tempérer cette terreur. Certains s'inventent des destins, d'autres des raisons supérieures. On peut sombrer dans la folie ou se réfugier dans l'oubli. Moi, je joue et je m'amuse. C'est la plus belle recette que je connaisse pour rester vivant. Amis auditeurs, merci beaucoup pour m'avoir accompagné cette année dans ce voyage philosophique autour du jeu. Il y aurait encore tant à dire sur le sujet, mais aussi tellement d'autres domaines du jeu à explorer. On se donne rendez-vous à la rentrée pour un nouveau format, et d'ici là, jouez bien.
Merci à Cariatre pour cette analyse. Alors, pour cette dernière chronique...
On est un petit peu triste, là, quand même.
Voilà. Voilà.
On sent que le voyage se tourne. Ouais, le voyage se termine.
Ouais. Ouais, il nous a dit qu'il avait plus trop de matériel pour faire des chroniques, mais il nous fera autre chose la saison prochaine.
Bon, nous, on est triste parce qu'on avait l'impression de revenir un peu au bac philo par moment.
Voilà.
Ça nous obligeait un peu à faire des efforts intellectuels qu'on avait bien oubliés depuis longtemps.
Ouais,
et
ouais.
Puis c'est aussi une petite déclaration d'amour au jeu en général, cette chronique, enfin ce petit bilan qu'il nous fait.
Ouais.
Voilà, il revient sur des choses dont on a discuté déjà, sur le fait que le jeu est avant tout et plus dépend du fonction du sujet que de l'objet. De la posture du joueur est plus importante finalement que l'objet en lui-même. Et donc il rapproche le jeu de l'art et de l'humour.
Ouais.
Puisque c'est finalement autant celui qui donne que celui qui reçoit qui va déterminer si on est bien dans de l'art, de l'humour ou du jeu. Et puis après, il nous parle aussi du fait de savoir si le jeu peut être considéré comme une fuite ou un refuge. Et c'est parfois ce qu'on entend sur le fait qu'il y a une déconnexion en fait entre du joueur. Alors on l'entend souvent un peu dans les médias sur le jeu vidéo, une déconnexion avec la réalité.
On l'entend en mal quoi dans les médias.
Ouais, là c'est critiqué finalement. Ouais, là c'est un peu critiqué comme si celui qui jouait n'avait plus conscience qu'il joue et qu'il confondait
La réalité et la fiction
et l'univers du jeu. Et c'est assez amusant parce que c'est souvent un argument qu'on te donne pour ne pas inciter les enfants à jouer, enfin en tout cas limiter l'accès au jeu, alors c'est principalement du jeu vidéo d'ailleurs, qui est souvent vraiment blacklisté, alors que finalement ton enfant il joue avec ses Playmobil et qu'il massacre tous ses bonshommes avec son château Playmobil, c'est pas gênant, mais par contre s'il fait la même chose dans un jeu vidéo, manifestement c'est comme si le fait d'avoir un visuel très fort...
C'est ce qui avait été reproché aussi aux jeux de rôle dans les fin des années 90. Dans les années 90, quoi.
Oui, qu'il y avait des gens qui faisaient plus la différence entre eux-mêmes et leurs personnages.
Voilà.
Et ce qui est complètement... il suffit d'avoir des enfants, c'est un peu, pour le coup, le contre-exemple empirique pour savoir que les enfants font très très bien la différence. Et que si tu leur dis qu'ils ne la font pas, ils te regardent comme si c'était un peu... les enfants ne pensent pas que tu n'as que 3 vies, comme dans Mario, ou Donkey Kong, tu vois, parce que t'as 3 cœurs et non, ils ont tout à fait conscience de la différence. Il y a quand même une distanciation qui est assez évidente, que ce soit dans le jeu de société, le jeu vidéo, et même le simple jeu avec des bonshommes. Tu vois, si tu joues avec ton fantôme phosphorescent, tu te doutes bien que
c'est pas un vrai fantôme, c'est ça.
Exactement, et tu vas pas te mettre à luire dans la nuit non plus, donc. Mais oui, c'est assez amusant parce que c'est des critiques qui sont vraiment souvent dirigées contre le jeu comme si ça te faisait perdre contact avec le réel, alors que c'est plutôt des coupures nécessaires pour l'esprit humain avec le réel. On a tous besoin de pause en fait.
Ouais. Ça permet aussi de la fuite. Je pense qu'on peut dire que c'est aussi quand on réfléchit sur un jeu de société à choisir le meilleur coup. On réfléchit pas à autre chose et c'est un peu en ça qu'on se déconnecte de la réalité. Si on est plongé dans notre jeu, on pense pas à autre chose, quoi.
Oui, on pense pas à autre chose, mais ça veut pas dire perdre pied.
Ah oui, non, pas du tout, parce que
plus distinguer le réel, voilà.
On maîtrise, mais voilà, l'esprit est sur autre chose pendant un petit moment, quoi. C'est ça qu'il faut voir.
Et je pense que c'est des temps de récréation indispensables pour aussi que ton esprit, après, il soit prêt à repartir sur d'autres choses qu'il a, enfin, plus contraignantes ou moins agréable, il y a aussi, enfin, on sait très bien que, si on a des récréations à l'école ou si on te fait des pauses au travail, on fait tous des pauses.
Des pauses café.
Voilà, des pauses café.
La fameuse pause café.
On a tous des pauses. C'est aussi parce qu'on sait très bien que à un moment, le cerveau, il a besoin de cet aspect récréatif, d'avoir ce côté. Et finalement, parfois, tu peux avoir des jeux qui peuvent être plus compliqués que ce que tu fais au travail. Mais comme c'est quelque chose que tu fais volontairement et que tu le vis comme un amusement, enfin, comme une récréation, c'est ton cerveau qui l'analysera pas comme une chose contraignante et complexe et difficile. Il y a que les gens qui aiment pas jouer qui disent, oh, c'est trop compliqué, ces prises de tête et tout. Non, si t'aimes jouer, enfin, tu vas pas te poser la question. Ouais. Ça, tu vas le vivre comme un moment de détente.
Ouais, faut comme un challenge intellectuel. C'est comme les gens qui font quand tu fais des mots croisés, c'est aussi pour un challenge intellectuel de trouver des mots et d'apprendre des choses. Et là, c'est pareil. Quand on fait un jeu, c'est pour challenger son esprit à optimiser des actions et des choses comme ça.
Et puis voilà, on en revient aussi à l'idée que toujours que le jeu est quelque chose d'entre guillemets de volontaire et presque d'inutile au sens non productif, parce que quand tu joues, techniquement tu produis pas de richesse. Alors même s'il y a eu des débats, j'ai vu passer quelques débats là-dessus sur cette question-là, mais en tout cas c'est pas comptabilisé d'un point de vue économique encore. Si tu joues à Tréfuté ou à Goust ou au château de Bourgogne, c'est pas encore comptabilisé et il y a toujours ce plaisir de l'inutile. Et moi j'y crois beaucoup, que les choses les plus inutiles sont les plus indispensables.
À quand les joueurs professionnels dans le jeu de société, quand on aura des tournois comme des tournois de e-sport avec des récompenses au bout, pour le moment, il n'y a pas encore trop de récompenses dans les tournois de Catan ou de Puerto Rico.
Mais oui, ça pourra.
Et voilà. Bientôt le board game sport,
ouais.
Ça peut se dire.
Et puis tu auras des gens qui viendront payer pour te regarder jouer pendant des heures.
Voilà.
Et après, tu te doperas.
Voilà.
Pour
comme,
tenir.
Comme les échecs. Hein.
Ouais, pour tenir. Bah oui, mais pour tenir. Mais déjà, dès que tu passes à la professionnalisation, ben, tu enlèves un peu. Du simple plaisir, tu rajoutes de la contrainte.
Ouais, bah oui.
Parce que ça vient s'entraîner et tout, t'imagines ?
Ouais, te jouer à 8 heures par jour au même jeu.
Ah, mais dès que si t'es obligé de le faire, c'est plus du tout. Je pense que tu vivrais beaucoup moins bien. Aujourd'hui, tu te dis, oh là là, j'ai pas le temps de jouer, c'est horrible. Et quand t'arrives à trouver 2 heures, t'es tellement satisfait. Alors que si demain, on te dit, tu fais ça 35 heures par semaine.
Tu fais 35 heures par semaine de Puerto Rico à la fin. Voilà.
Et ben, peut-être tu pourrais plus supporter le jeu en fait.
Ah ben, je pense que.
J'en peux plus de ces mecs dans les bateaux. J'en veux pas de l'indigo. À quoi ça sert l'indigo quand même?
Ah ben oui, c'est ça. Moi je veux des esclaves. Non, des colons.
Ne dis pas ça. Chut. On va avoir des problèmes après.
Ah ben. Maintenant, pas de problème. Maintenant, c'est l'été. Tout le monde est en vacances. Et d'ailleurs, nous aussi, on va partir en vacances.
Ah, bientôt. Vivement les vacances.
Voilà.
Pas proxy jeu, hein. C'est le reste dont on a envie d'être en vacances.
Ouais. Bah parce que proxy jeu ne s'arrête pas, même pendant l'été.
Jamais.
Voilà. Vous aurez tout au long de cet été deux hors-série. On fait donc le hors-série de Dédé Schütz et le hors-série de Paul Gara, un petit peu.
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est manoir contre manoir.
Voilà, on a chacun formé une équipe et pour faire un épisode hors série cet été, donc un épisode série Grand Est et un épisode plutôt Paris et la grande banlieue, on va dire.
Oui, voilà, on va dire ça comme ça.
La très grande banlieue.
La très grande banlieue. Le très grand Paris.
Voilà.
Non, moi j'avais proposé qu'on les nomme... Essos et Westeros, tu vois, un petit peu les continents de Game of Thrones. Donc, toi, t'es la partie où il y a les esclaves et tout. Et on est la partie, on se fout sur la gueule allègrement. Finalement, je sais pas si je vais les laisser venir jusque chez moi. J'ai peur que ça peut mal se finir, hein, quand même.
Non, non, on va rester dans le bon enfant, hein, quand même.
Ouais.
On va pas s'entretuer tout de suite.
Non, pas y avoir. Après, qui fera le montage de l'émission.
Voilà. Et vous aurez aussi les interviews qu'on a réalisées à des bretzels et des jeux. Donc ça tout au long de l'été, par-ci par-là, on en a plus d'une vingtaine. Donc vous avez déjà écouté l'interview qu'on a fait tout à la fin de Mika qui nous parle. du festival, comment ça s'est passé. Et après, ce sera l'année prochaine, en septembre, on reviendra avec une émission 99. Et qui dit émission 99 dit épisode 100. Mmh. Et on vous prévoit une petite surprise pour notre centième qui arrive en octobre.
Là, on est tous mobilisés.
Voilà.
Normalement, on sera tous au complet, réunifiés.
Voilà, le grand proxy jeu. Le proxy jeu All-Star, on peut dire.
Oui, exactement. On va faire une tournée dans toute la France, peut-être.
Voilà. Voilà. Et donc, l'année prochaine, on aura aussi de nouveaux chroniqueurs. Il y a eu beaucoup de retours sur l'appel qu'on avait lancé.
Plein de choses intéressantes. Qui se profile,
voilà. Donc,
avec des choses nouvelles, un peu inédites qu'on n'avait pas du tout traitées, qui vont arriver à être proposées.
Donc, on vous en dira un peu plus dans le hors-série de l'été. Je sais que Cyrus il a prévu de faire un petit bilan de la saison. Donc, vous aurez ça dans les hors-séries. Mais on se retrouvera, nous, quand même l'année prochaine, on continuera. Pour aussi des pronostics gagnants.
Oui, bah ça c'est toi ça les pronostics gagnants.
Parce que on enregistre cette émission, on a déjà eu donc le vainqueur du Kinderspiel et donc c'était bien le dragon de glace, c'est ça.
Ouais, trésor de glace au fond.
Le trésor de glace, ouais. Voilà qui a gagné comme je l'avais prédit.
Voilà, donc du coup, on est obligé de te demander maintenant qui va gagner la Coupe du Monde parce que.
Ah.
Moi, j'attends ton pronostic. Hein.
Ah, moi, je dis l'équipe de France parce que je suis un peu chauvin.
T'es bien optimiste. Ah bon, vous supportez.
98, 2018.
Je pensais que vous supportiez l'Allemagne dans tes terres.
On peut traverser le Rhin si jamais l'Allemagne gagne.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pratique, ceci dit, hein, comme ça. Voilà. Et puis nous, on se retrouvera tous les deux, normalement, pour les prochaines chroniques l'année prochaine.
Oui, on continuera, je pense, notre duo. Et du coup, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-nous le savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxyjeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, nous laisser des commentaires.
Et puis bien sûr, nous noter sur iTunes. Hein.
Ouais.
Il ne faut pas hésiter. Et le plus important, c'est de parler de nous autour de vous.
Voilà. Donc nous, on se retrouve à la rentrée.
En septembre.
Et en attendant, jouez bien.